Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Des propos cohérents,
des opinions différentes. Vous écoutez
Dutrisac.
Antoine Robitaille et Caroline Saint-Hilaire sont avec nous pour parler de politique. Bonjour à vous deux.
Oh, politique aujourd'hui.
Politique aujourd'hui.
En français.
Oui, en français.
Ça nous a pris un an, Antoine.
Oui.
Non, c'est
pas de politics.
Non, politics des fois juste pour vous gosser un peu là pour voir si.
Ah, c'est ce genre là, toi. T'es ce genre.
Ah oui, j'étais une guidoune.
T'es bon là-dedans.
Oui, merci. Faut bien être bon dans quelque chose.
Oui, la guidounerie.
La guidounerie, ceinture noire en guidounerie. Ménage dans l'entourage de Dominique Andelade. Ah oui, c'est le printemps là. C'est le grand ménage du printemps.
Oui, je voulais t'en parler hier. C'est la chef libérale a annoncé qu'elle changeait dans sa garde rapprochée la chef de la directrice de cabinet. C'est Valérie Rodrigue qui s'en vient. Valérie Rodrigue, c'est une habituée des coulisses du Parti libéral. Là, moi, je me souviens d'elle comme porte-parole de plusieurs ministres. Elle a travaillé dans des cabinets aussi. Donc, c'est vraiment une femme du sérail, mais avec une grande expérience aussi de la fonction publique. Une femme très sympathique, très efficace comme porte-parole. Elle succède à Patrick Huot. Patrick Huot, c'est un ancien député du Parti libéral. Il a été là assez longtemps. Il était dans Vanier-les-Rivières et il a perdu, il est revenu, puis il a reperdu. Et il a essayé de... Bon, il a travaillé à la permanence du Parti libéral, puis ensuite à la direction de cabinet de Mme Anglade. Lui, c'est un farouche, promoteur du troisième lien.
Ah oui?
Tu vois que...
Il s'en va travailler à la CAQ, quoi?
Oui, non. Non, il n'y a pas de boulot en vue, d'après ce que j'ai su. Donc, non. J'ai l'impression qu'il a comme été, chassé. Ouais, c'est ça, pour Valérie Rodrigue. Mais est-ce que le troisième lien, ça a joué? Hein? C'est peut-être une ligne de fracture.
Ou est-ce qu'Éric Duhaime l'a recruté?
Ça se pourrait. Écoute, c'est pas fou ce que tu dis, parce que Patrick Huot, c'est vrai qu'il était plutôt un peu plus à droite que le Parti libéral. Donc, lui, il s'était fait connaître, entre autres, par une déclaration incroyable. je suis en train de la retrouver là sur le projet de loi sur le nouveau Colisée dans le temps. Et il avait manifesté son mécontentement à l'égard de son propre parti. Hein? Il y a un courriel qui avait été publié dans la presse de M. Huot où il avait dit que le gouvernement Charest était vraiment une bande de mauvais négociateurs. On est des mauvais gestionnaires. Le courriel était vraiment salé. Il avait dit non seulement on a baissé nos culottes, mais on a écarté les fesses.
Tout pour se faire des amis, hein?
Écoute, je me souviens très bien, ça, c'était...
Qu'est-ce qu'il a dit, Jean Charest, tu penses?
En 2011. Et là, les blagues qui circulaient dans le couloir, je vais les faire, mais c'est pas Jean Charest qui l'a dit, mais c'est des libéraux qui faisaient la blague dans le couloir ce matin-là du 2 juin 2011. Mm-hmm. On a entendu ce que M. Huot a dit, puis ça va rester dans les annales.
Merci, Madame. OK. Bon, c'est assez pour ça. Là.
Voilà.
Bon,
oui, excusez-moi.
Ouais, on lui souhaite bonne chance.
C'est un peu grivois, mais tu sais, des fois, qu'est-ce que tu veux, ça existe. C'est des choses qui existent.
Ben oui, il faut arrêter d'être politiquement correct tout le temps, à chaque coin de rue. Catherine Fournier, qui réfute les critiques.
Oui, j'ai reçu la députée indépendante, l'ancienne péquiste, donc et peut-être prochaine mairesse de Longueuil, comme on le sait.
C'est pas donné à tout le monde, ça.
À la haut sur la colline. Et je l'ai mis en face de la critique très sévère que Michel David a faite dans Le Devoir en fin de semaine. C'est-à-dire, en début de semaine, il faisait l'espèce de bulletin des oppositions, puis il a donné la note D à Catherine Fournier. Il a dit même si elle siège comme indépendante, elle s'est fait remarquer par des projets de loi pertinents,
Allô?
Mais elle arrête pas de changer d'idée sur toutes sortes de sujets après avoir quitté le PQ. Voilà qu'elle s'apprête à abandonner ses électeurs, sans parler de ceux qui l'ont suivi dans son mouvement Ambition Québec. Alors là, j'ai dit, Puis là, David, il disait, combien de temps compte-t-elle rester à la mairie de Longueuil? Est-ce qu'elle va encore une fois changer de... Et là, je me suis dit, Catherine Fournier, elle va avoir à faire à cette critique-là.
Ouais.
C'est certain qu'on va la soulever. Donc, Je l'ai mis devant cette critique-là, puis elle a dit, bon, je suis content que vous me donniez l'occasion de répondre. Bon, j'ai quitté le PQ pour des raisons, simplement que j'étais plus sincère dans mon engagement. Je pensais vraiment pas que le Parti québécois allait nous mener à l'indépendance. C'est pas très opportuniste
Pardon?
De devenir...
Oui, ah, elle pensait pas. OK, elle pensait pas que le PQ allait mener le Québec
c'est
à l'indépendance.
Elle voulait créer quelque chose de nouveau.
Avec 10 députés.
Ambition Québec a dit que ça existe, mais moi j'ai jamais vu que ça existait, mais il paraît là qu'il y a des espèces de chapitres qui naissent un peu partout, notamment à l'Université de Montréal, dit-elle. Donc Ambition Québec, ça va demeurer même si elle devient mairesse, elle n'en sera plus à la tête, elle sera plus à la tête de ça, mais puis c'est ça, elle dit que elle abandonne pas ses électeurs parce qu'elle veut les représenter à un niveau où elle va être encore plus à proximité d'eux.
Caroline, pourquoi tu ris?
Ben, parce que c'est une politicienne très habile. Oui.
Ouais. Est-ce qu'on peut lui faire confiance à Catherine Fournier?
Ben, pourquoi on pourrait pas lui faire confiance? C'est peut-être une conclusion un peu rough de dire qu'on peut pas lui faire confiance. Je comprends le questionnement de Michel David parce que Antoine a raison. Là, je veux dire, elle avait annoncé en grande pompe son mouvement Ambition Québec. Ça a pas levé, ça a pas donné grand-chose. Mais en même temps, on peut pas empêcher un cœur d'aimer. Elle aime ça faire de la politique. Fait que là, elle va servir du niveau municipal. Mais je pense qu'il faut qu'elle dise aussi la vérité. Elle aime ça, la politique. Puis elle a fait le tour à Québec, puis elle se rend bien compte que comme indépendante, elle peut pas rien faire.
Ouais.
Fait qu'elle peut servir autrement. Moi, je pense que sa démarche est légitime. Disons ça comme ça, légitime.
Ouais, elle dit que ça serait probablement pas... elle aurait pas été réélue comme indépendante. C'est très difficile de se faire élire comme indépendante. Ça, elle l'a admis.
Mais les femmes ont le droit d'être ambitieuses, hein? Les femmes, comme les hommes, là.
J'ai soumis un cas... Benoît et Caroline, je lui ai soumis un cas. J'ai dit, vous êtes mairesse de Longueuil, il y a trop de chevreuils dans un parc, qu'allez-vous faire? Qu'auriez-vous fait, plutôt?
Ouais.
Puis là, elle m'a dit, j'aurais consulté davantage, je me serais mis en... Sa réponse était très étoffée, là, pour... C'était comme à brûle pour point, quand même. Puis, non, ça vaut la peine d'aller écouter ça, là-haut sur la colline, mesdames
et messieurs. Parfait.
C'est quoi cette émission-là? C'est nouveau?
Mais arrête, lui, il va passer d'une autre 5 minutes à s'auto-plugger.
On profite, ça achève.
Allons, oui, c'est ça. Allons du côté d'Ottawa, Caroline. Oui. La motion du Bloc, finalement, il voulait pas demander l'approbation d'Ottawa. On n'a pas besoin de l'approbation d'Ottawa pour appliquer la loi 96, mais on la demande pareil.
Ben, on la demande pareil. Oui, effectivement. Mais je pense que c'était surtout de la part du Bloc québécois une stratégie pour connaître le positionnement de chacun des parlementaires. Parce que je veux juste que vous vous souveniez, ce que c'est cela.
Oui.
Quand le Bloc québécois avait demandé l'appui unanime pour que la Chambre des communes reconnaisse que le gouvernement du Québec a le droit de modifier la partie de la Constitution qui le concerne, il y avait eu notamment Madame Judy Wilson-Raybould qui avait refusé. Elle avait refusé au nom du fait qu'il fallait avoir un débat. Alors, il y a eu ce débat-là, mais ça n'a pas convaincu madame parce qu'elle a voté contre. Elle s'est pas juste abstenue, elle a voté contre, comme le député indépendant conservateur Derek Sloan, d'ailleurs. Donc, ce sont les deux députés qui ont voté contre. Mais ce qui est intéressant d'analyser hier, c'est bien sûr, ça a été adopté non pas à l'unanimité, mais ça a été adopté de façon assez majoritaire. Il y a eu quand même quelques abstentions. Et c'est intéressant l'analyse qu'on peut faire des abstentions parce que il y en a plusieurs au Parti libéral du Québec. Il y en a 9 entre autres.
Du
quand
Canada?
Même. Du Québec! Non, Parti libéral du Canada, mais des députés du Québec.
Ouais, c'est ça que je veux dire, c'est ça que je disais.
Donc, c'est 9 députés du Parti libéral du Canada.
Non, c'est juste qu'on avait l'impression que tu parlais du PLQ, c'est ça. C'est...
Ah, excuse-moi, il est temps que ça finisse. Donc, 9 députés du Parti libéral du Canada au Québec qui se sont abstenus. Ils ont même pas le courage de voter contre. Ils ont préféré rester discrets. Et c'est intéressant. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est tu te rappelles aussi le député Matthew Green du LPD,
Hein,
celui qui disait que ton
le
ami Attarand. Ben oui, c'est ça. Lui aussi s'est abstenu. Il n'y a pas eu de députés québécois du Parti conservateur qui se sont abstenus. Et ce qui est intéressant aussi, c'est l'analyse qu'en font les médias anglophones. Toujours intéressant aussi comment ils nous apprécient. Eux, ce qu'ils regardent, c'est non pas l'analyse du fait que c'est une motion adopté majoritairement à la Chambre des communes, comme quoi que le Québec a le droit de faire ce qu'il veut finalement. Eux autres, ils disent que le Bloc québécois fail.
Ils ont échoué
à faire adopter la motion de façon unanime. Alors, c'est intéressant quand même de voir la perspective différente. Et on va se le dire, là, le Bloc québécois, c'est une stratégie en campagne électorale qui viendra très rapidement. Mmh. Ben, ils vont servir de ça, là, parce que bon, que ce soit ta bonne amie Alambropoulos, qui de toute façon, elle a dit que ça existe pas les problèmes des problèmes avec la langue française au Québec.
C'est celle qui a fait son discours d'acceptation de candidature pour le Parti libéral juste en anglais. Puis elle a dit, ben moi, le monde est tout des anglophones.
Ouais, puis les députés du Québec, du Parti libéral du Canada qui se sont abstenus sont essentiellement dans des comtés très très anglophones,
très multiculturels. C'est des peureux, oui. Parce que s'ils sont contre, ils disent pas. S'ils sont pour, ils disent pas non plus.
Non, c'est ça. Parce il n'y a rien de pire que l'abstention dans mon livre à moi. Là, c'est comme tu n'assumes même pas tes convictions.
C'est ça.
Et tu veux pas déplaire non plus à ton parti. Il y en a une, entre autres, Sherry Romanado, qui est députée de Longueuil, Pierre Boucher, qui a quand même un petit bassin de Longueuil francophone, mais qui a quand même un gros bassin d'anglophone au niveau de Greenfield Park, au niveau de Saint-Lambert. Donc, est-ce que ça deviendra un enjeu dans le cadre de la prochaine élection? On verra bien.
Ouais.
Mais quand même, ça a été adopté de façon majoritaire. Faut quand même reconnaître ça. Mais bon. Ça changera rien.
Je sais pas si ça changera. Je sais pas.
André Boulris, je trouve que ça change rien dans le
C'est impressionnant, cette évolution-là. Il y a toute une évolution à Ottawa, puis c'est comme si on faisait tranquillement ce qui était dans le lac Mich.
Mais vous trouvez pas c'est un peu comme jouer à Twister là, tu sais, c'est comme le Bloc québécois a tassé les élus à Ottawa sur les mêmes ronds, les mêmes couleurs là. Puis à un moment donné, on va les tu sais, ils vont être coincés sur le jeu. C'est comme le Bloc québécois a été assez stratégique là-dedans.
Tout à fait. Mais en fait, est-ce que on aurait eu le même vote dans un gouvernement de Justin Trudeau majoritaire? Est-ce qu'on aurait eu le même vote si on avait encore 2-3 années de mandat? Moi, je suis pas certaine. Je pense qu'il y a un contexte avec des petites odeurs électorales.
Mais c'est toujours comme ça qu'évolue les choses dans un pays. Je veux dire, c'est...
Fait que finalement, on a juste le gouvernement minoritaire.
Machiavel appelait ça la fortune. À un moment donné, il faut que les politiciens profitent de la fortune quand elle se présente et qu'elle vient les aider.
Tu saisis l'occasion qui se présente.
C'est ça.
Un ami, Paul, qui se dit victime de racisme, de sexisme. C'est comme... Moi, j'ai lu ça dans le National Post aujourd'hui. Je me dis, là, est-ce qu'on a le droit de critiquer quelqu'un qui n'est pas blanc sans se faire traiter de raciste ou de sexiste?
Moi, j'ai l'impression d'avoir... je l'ai vu, la conférence de presse hier de Mme Paul, le chef du Parti vert, qui de toute évidence, a des problèmes à l'interne avec son propre parti. J'avais l'impression, tu sais, quand un couple se chicane dans un souper, là, puis tu participes à ça, puis t'es pas du tout confortable, puis tu veux t'en aller chez vous parce que t'aimes mieux qu'ils finissent ça sans toi. Ben, c'est un peu ça. Et là, hier, elle disait que, bon, il y avait des gens, des conseillers, du staff dans son parti qui étaient racistes. Elle comprenait très bien que, bien sûr, c'était la première femme noire chef de parti et que ça pouvait déranger certaines personnes, mais là, elle vit son propre parti. Moi, je suis pas à l'aise. Elle parle de sexiste parce que c'est une femme, mais qu'elle se laissera pas abattre. Et écoute, même elle attaquait Justin Trudeau comme si c'était de sa faute, les chicanes de son parti. Moi, je suis pas du tout confortable. Ça se peut qu'il y ait des problèmes, mais réglez ça entre vous. Revenez nous voir plus tard parce que là, c'est pas, tu sais, s'il y avait pas eu de contestation à l'interne, je pourrais comprendre qu'elle en veuille à l'univers, mais là, ça vient de l'interne,
d'évoquer le racisme, là, dès qu'il y a une critique, moi, je suis plus capable.
Mm-hmm. Ça sert pas. Sors-moi des exemples en quoi tu vis du racisme, mais en même temps, elle a été élue par les membres de son parti, alors elle peut pas critiquer aujourd'hui qu'ils sont racistes. Elle a été élue de façon très, très claire, mais là, elle a des problèmes à l'interne. interne. Est-ce que le problème vient du staff qui s'adapte pas parce qu'elle veut amener le parti ailleurs? Est-ce que c'est des problèmes avec elle qui a un style de leadership dont le parti est pas prêt? Je le sais pas, on n'est pas à l'interne, les discussions sont privées, mais en même temps, elle vient se plaindre en public. Ouais.
C'est toujours drôle, un chef de parti qui critique son parti. Moi, je me souviens de Gilles Taillon qui avait été élu chef de la DQ. Puis qui disait qu'à un moment donné, il allait appeler la SQ, la Sûreté du Québec, pour fouiller le financement de son parti depuis 2003. C'est comme tu montes dans une chaloupe et tu mets le feu.
Dans le fond, parce qu'il fait froid. Bon, OK. On s'arrête là-dessus. Nous, on fait ça demain à même heure. Oui. C'est la dernière de la saison. Fait que on s'habille propre puis on se revoit demain.
D'accord.
Merci.
À demain.
Salut.
Bye.